Vous êtes bien à l'écoute de Calade et comme vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a un léger brouhaha. Nous sommes en direct à l'extérieur, nous sommes sortis. Alors il fait beau, oui, nous sommes sortis, mais pas tout à fait dehors. On s'est remis à l'intérieur, dans la salle des échevins. Parce que vous savez, Villefranche a son salon du livre, et ce salon il s'appelle la Vague des Livres, et ça a commencé hier soir, et c'est aujourd'hui toute la journée, et demain toute la journée. Alors, on va dire le point de rencontre principal, c'est ici à la salle des Échevins, mais c'est aussi aux quatre coins de la ville. Et pour parler bien de ce salon du livre, on va accueillir avec nous Jean-Claude Grezard, qui est à la fois un auteur qui expose ici, qui est présent dans ce salon du livre, mais aussi qui fait partie de l'organisation de la Vague des Livres. Et donc, on va commencer dans un premier temps par parler de ce salon. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous. Et puis, merci à Radio Calac de pouvoir nous mettre en avant donc, sur ce week-end littéraire de Villefranche. Un week-end annuel maintenant, puisqu'il était décidé donc, justement d'accueillir des auteurs et des pointures littéraires au niveau nation par rapport à ça.
Alors, un salon du livre, ça reste quand même assez calme, mais c'est quand même un peu plus bruyant qu'une bibliothèque. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour faire « chut, chut ».
Oui.
Ça veut dire qu'on peut quand même parler en face de livres, on n'est pas obligé de rester complètement silencieux. On entend même des rires, on peut rigoler, on peut...
Je crois que c'est justement ça, le salon du livre, c'est la rencontre entre les auteurs et les lecteurs. Et puis ici, tout le monde peut se promener, tout le monde peut visiter, personne n'est obligé d'acheter. Je le répète, hein, c'est justement cet échange entre l'écrivain et le lecteur.
Un contact direct, parce que c'est vrai que d'habitude, il y a l'interface du libraire. Alors, des libraires, il y en a ici aussi.
Il y a plusieurs libraires ici,
oui, donc voilà. Et plusieurs auteurs, il y a des maisons d'édition, des gens qui sont... auto-publiés, comme on dit,
oui.
Et puis des gens qui sont publiés avec des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition très petites, d'autres un peu plus grandes, des maisons d'édition spécialisées. Ça permet aussi de découvrir une vraie richesse en dehors de ce qu'on trouve habituellement dans les grosses ventes et les points culturels
Tout à
supermarchés.
Fait. Tout à fait. Donc je voudrais mettre en avant justement le président Damien Corban qui en ce moment même, on va en parler sans doute tout à l'heure, assiste à la conférence avec Raphaël Endoven, donc au théâtre. Mais la Vague des Livres a voulu vraiment présenter un plateau complet de ce qui peut se faire en termes de littérature. Bien sûr, on a tous les auteurs nationaux, mais justement, on a souhaité en Calade mettre en avant des maisons d'édition, vous l'avez souligné, parce que le monde littéraire est compliqué, c'est difficile de se faire une place et c'est justement un des avantages de ce type de salon.
Alors Jean-Claude Grezard, cette Vague des Livres, qu'on appelle aussi, alors on l'appelle, c'est la Vague des Livres, c'est son nom, hein, mais c'est le Salon du Livre de Villefranche, il se répartit en 7 lieux cette année. Alors j'ai dit le lieu principal, c'est parce que c'est le lieu où on est actuellement, puis c'est le lieu aussi de rencontre avec les auteurs du salon, c'est ici à la Salle des Échevins,
oui.
96 rue de la Sous-Préfecture,
oui.
Mais pas seulement.
Alors, je pense qu'il faut, aussi remettre le salon dans le contexte. Le salon s'intègre dans la semaine littéraire. Et quand vous nommez sept lieux, c'est justement, il y a la médiathèque, il y a le théâtre, la salle des échevins, la salle de l'académie. Voilà, c'est tous ces lieux aujourd'hui, ce week-end et dans la semaine qui seront sur le littéraire.
Et puis, il y a aussi un programme de rencontres, d'activités. Alors, il y en a en ce moment, vous disiez par exemple, en ce moment, Raphaël Endoven est en conférence au Théâtre de Villefranche. Et puis, il y a des choses là qui sont prévues en fin de journée. Alors, on en parlera tout à l'heure parce qu'on va recevoir les personnes qui animent plus particulièrement la petite vague, qui est la vague des livres pour les plus petits. Mais peut-être qu'on peut s'intéresser, Jean-Claude, au programme de demain.
Oui.
Et qui commence avec l'ouverture du salon à 10h et dès 10h30. Alors soit c'est un très bon souvenir, soit ça peut mettre peut-être même dans l'angoisse pour certains. C'est la traditionnelle.
La traditionnelle dictée. La traditionnelle dictée qui chaque année a de plus en plus de succès. On est obligé de limiter le nombre de personnes, justement, à cette dictée. Et c'est vrai que cette année, on a la chance d'avoir Marie-Pierre Planchon, que la voix de France Inter, hein, au niveau de la météo, donc qui sera là pour justement animer cette dictée.
Ah, Marie-Pierre Planchon. Je ne sais pas pour vous, Jean-Claude Grezard, c'était pareil, mais moi, c'était vraiment le plaisir parfois à France Inter. Il y avait ce petit moment suspendu, là, à 20h, avec la météo marine, où on entendait des lieux Iroise, Cantabricot, Ouessant, Cabrera, avec des vents force 5 à 6. Et bon, moi, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça tellement poétique. Et elle savait rendre ça poétique avec sa voix. Alors j'imagine que peut-être qu'une dictée sera moins angoissante avec Marie-Pierre Planchon, qui va s'en charger.
Mais peut-être que de la voir, justement, il y a une certaine, un petit peu de stress quand même, parce que c'est une grande dame. Donc c'est vrai que quelque part, on craint un petit peu ce genre de rencontre. Mais je sais qu'elle se met à la place de tout le monde, donc ça va très, très bien se passer.
Et puis, toujours dans les rencontres organisées demain, à 11h, ce sera sur l'histoire des Templiers, en lien avec le Beaujolais. À travers un livre qui s'appelle Les Mystères du Trésor Perdu. Et donc, ce sera une rencontre avec son auteur, Michel Verrier.
Michel Verrier, moi, que je vous invite à rencontrer, qui est aujourd'hui dans la salle, derrière nous, là. C'est un auteur local, mais publié au niveau national. C'est quelqu'un de passionnant à écouter et de passionnant à lire. Je vous invite à venir l'écouter et à venir sur son stand dès maintenant et toute la journée demain. Édité aux éditions Héraclite, je tiens le préciser. Donc les éditions Héraclite, elles sont gérées par Damien Corban, le président de l'AVEC des livres.
Et puis une autre rencontre à 14h avec une autrice, Yamina Benhamed Daou. Ensuite à 15h, c'est Nicole Gontier qui est romancière et qui parle de quelque chose qui est intéressant. Elle ne parle pas simplement de son livre, mais de son procédé d'écriture pour les romans historiques.
Oui, alors c'est intéressant d'écouter, j'allais dire, de la manière dont elle travaille et puis d'écouter ses conseils. Alors, je parle presque en tant que jeune écrivain, si on peut prendre cette expression. On se pose toujours des questions quand on veut écrire, quand on écrit ou quand on a envie d'écrire. Donc, le fait de rencontrer un auteur qui va vous... J'allais dire un terme pas très joli, qui va vous décortiquer la manière on peut appréhender tout ça. Je pense que c'est vraiment un plus.
Il y a un peu derrière, alors c'est oui, parce qu'on n'écrit pas comme on pense. Forcément, il y a des choses à structurer, il y a tout un travail pour cadrer.
Moi, j'ai l'habitude de dire, il faut écrire comme on le sent. Chacun d'entre nous a une façon de vivre, de penser. L'écriture, c'est la même chose. Hein, je pense que c'est important. Il n'y a pas de règles précises. Moi, je me refuse, en tout cas, en tant qu'écrivain. J'écris. Ça plaît ou ça plaît pas, je préfère que ça plaise, mais je ne vais pas dire à quelqu'un, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Donc c'est...
Puisque vous évoquez vous-même votre histoire d'écrivain, vous avez commencé à écrire Jean-Claude Brezard à la retraite.
Oui, alors peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais aussi revenir, on va peut-être en parler tout à l'heure, sur nos invités d'honneur.
Oui, je pensais en redire quelque chose. Voilà. Mais là, comme vous m'aviez lancé sur ce sujet, je trouvais intéressant qu'on continue un peu.
Oui, j'ai créé, je me suis amusé, parce que je ne sais pas si le terme amusé est bon, mais je me suis plutôt passionné à écrire. Je ne me suis pas passionné pour l'écriture, mais passionné à écrire.
Mais alors, est-ce que, avant de vous lancer sur votre premier roman, vous étiez pendant des décennies un auteur qui n'avait encore rien publié, mais vous étiez déjà un auteur dans l'âme?
Voilà, je pense que c'est... On ne m'avait jamais dit cette réflexion, mais c'est tout à fait ça. C'est quelque chose que j'avais en moi qui est... Bon, là aussi, hein, c'est le travail, la vie active. On est pris dans un cercle, je ne vais peut-être pas dire un cercle infernal, mais on est pris dans le temps et je n'avais pas justement pris le temps d'écrire. Et à la retraite, vous l'avez souligné, c'est vrai que là, les choses sont venues. Et je peux peut-être même rajouter que c'était peut-être... ancré en moi, parce que quand j'écris, j'ai pas le problème de la page blanche, ça vient tout seul, je peux pas l'expliquer.
Il y avait trop de choses en attente.
Peut-être.
Alors justement, nous on s'était rencontrés il y a quelques années pour votre premier roman, et depuis il y en a un certain nombre qui sont sortis, donc si je crois...
Ce premier roman, je tiens à le préciser, je l'ai présenté il y a 10 ans, mm-hmm. 2014, où justement j'ai eu le prix du roman à l'AVEC des livres. Bon, c'est vrai que depuis, j'ai fait d'autres ouvrages en quelques lignes, hein, parce que je pense que je vous invite déjà aussi à venir nous rencontrer sur le stand. Et mes ouvrages sont bien évidemment chez tous les libraires ou sur les réseaux sociaux. Le principe, j'écris des romans avec une intrigue, mais je m'appuie toujours sur des faits de société. Par exemple, le deuxième roman que j'ai écrit, c'est sur l'harcèlement moral en entreprise. Ensuite, j'ai écrit un roman sur la psychogénéalogie, les secrets, les non-dits qui se transmettent de génération en génération. l'avant-dernier roman que j'ai écrit, Nuances de vert, qui est aujourd'hui totalement d'actualité. J'ai voulu mettre en avant, fil conducteur, le bon sens qui est paysan, qui aujourd'hui se heurte à beaucoup de petits soucis, ou voire de gros soucis. Et puis le dernier, Délire de mai, un roman tout neuf, si je puis dire, puisqu'il a été édité par les éditions Héraclix en fin d'année 2023. C'est suite à une taquinerie d'un de mes fils qui m'a dit, tu sais, papa, si aujourd'hui c'est compliqué, c'est peut-être quand même un peu de votre faute, la génération 68. Moi, bien sûr, je suis de la génération 68 et j'ai trouvé ça amusant. Et j'en ai fait un roman où je mets en scène un groupe d'ex-étudiants de 68 qui ont mon âge, hein, 70 ans autour, et qui se retrouvent 50 ans après. La vie est passée par là, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Et puis, il y a des choses qui vont se régler entre eux. Voilà.
C'est difficile de s'entendre dire ça quand même.
Oui, oui, mais bon, je crois que c'est...
C'est de ta faute si ça va mal, papa.
Il y a aussi quelque chose qui m'avait interpellé.
C'est difficile de dire est-ce que ça irait mieux s'il n'y avait pas eu 68, on ne peut pas savoir.
C'est ce que je dis. Vous auriez vécu en 68, vous auriez fait à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Mais... peut-être un petit mot, puisque j'ai été en débat dédicace à la librairie des Marais jeudi dernier, ce que Bertrand Lamure disait, qu'est-ce qu'il faut retenir de mai 68? Eh bien, je crois, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est les prémices. Je dis bien les prémices, parce qu'on n'en était pas à la libération de la femme.
Et du coup, aujourd'hui, avec l'âge que vous avez, avec l'expérience que vous avez, vous qui avez vécu 68, quel regard vous portez sur la contestation?
C'est malheureux de dire ça, mais on a l'impression dans notre pays, c'est peut-être pareil dans les autres, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question, il faut arriver à des contestations assez fortes pour arriver à quelque chose. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas anticiper les choses et que les problèmes puissent se régler ou tout au moins se travailler en amont. C'est quelque chose qui m'interpelle.
On ne sait pas communiquer peut-être dans notre pays.
Peut-être. Alors dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, j'aimerais savoir ça. Je pense que c'est à peu près pareil. Je pense.
En tout cas, ça vous promet de beaux débats avec d'anciens 68ards qui pourraient passer aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est vrai que quand les gens passent devant mon stand ou quand j'échange avec eux, tout le monde dit il faut peut-être pas exagérer quand même. Hein. Donc on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et je pense aujourd'hui, et ça j'en suis persuadé, c'est que la génération qui vit actuellement a des moyens formidables pour faire leur révolution à eux. Mmh. En ce moment, on parle que de l'intelligence artificielle, c'est fabuleux. Alors il faudra bien sûr l'intelligence artificielle, il faudra l'accompagner, mais on pourra faire d'énormes choses avec ça.
Peut-être que les générations aujourd'hui sont peut-être trop obéissantes. Je ne sais pas. Je pose la question comme
oui,
ça.
Oui, hein. Peut-être.
Ou trop soumises.
Mais vous voyez, je regarde, je fais un petit clin d'œil à certains de vos collègues, en l'occurrence LCI, qui tous les dimanches soirs a un débat entre Daniel Cohn-Bendit et donc l'icône de mai 68 et Luc Ferry. Moi, je me régale à les écouter. Quand on écoute Daniel Cohn-Bendit, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bon sens. Et c'est ce que je retiendrai aussi de mai 68. Et que pourtant, Dany Le Rouge, c'était quelqu'un on n'en voulait plus en France. Hein.
Donc toujours un pavé dans la poche quand même.
Oui.
Alors, on va fermer la parenthèse en tout cas sur vos livres et puis revenir d'une façon plus générale à l'organisation du salon. Un salon du livre, c'est toujours aussi des invités avec une aura nationale, voire parfois internationale. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour des invités qu'on peut rencontrer ce week-end
au sein
d'Avec des livres?
Alors, le premier qui en ce moment est en train de faire une conférence sur un débat avec Alexandre Portier au théâtre, c'est Raphaël Endoven sur justement le livre qu'il vient d'écrire sur l'intelligence artificielle. Donc il sera là dans quelques minutes pour pouvoir échanger avec les lecteurs. On a bien sûr, on en a dit deux mots, Marie-Pierre Planchon qui sera là demain pour la dictée. On devait avoir Bernard Thévenet, malheureusement, il n'a pas pu venir, il a un petit souci de santé, mais je crois savoir que sa sœur sera présente avec, entre autres, Jean-Paul Olivier. Tout le monde connaît Jean-Paul Olivier, hein, le commentateur phare du Tour de France. Et puis, j'ai un jour, en regardant la télévision, j'ai vu une interview de Rémi Camus et je ne savais pas que Rémi Camus habitait à Villefranche. Mm-hmm. Et donc ça m'a semblé intéressant de faire venir cet explorateur qui est un petit peu le pendant de Mike Horn que tout le monde connaît. Mm-hmm. Voilà.
Donc ce sont les. Tout sur les techniques de survie.
Voilà.
C'est aujourd'hui à 16h à la médiathèque.
Voilà, c'est ça. Demain.
Ah oui, demain, pardon.
Demain.
On a dit, voilà.
Demain à la médiathèque.
Alors, on le redit pour pas que les gens aient mal compris. Demain, dimanche 17 mars, à 16h, une conférence de Rémi Camus, qui est voilà. Explorateur et formateur en technique de survie, membre de la Société des explorateurs français. Ça, il y a un petit côté surannée, mais en même temps, ça claque.
Voilà, voilà, tout à fait. Tout à fait.
Et donc, avec un échange avec le président de la Vaxelite, Damien Corban.
Avec Damien Corban.
Le salon aujourd'hui, c'est jusqu'à 18h.
18h, oui.
Après, 19h.
19h, oui, 19h. J'étais en train de chercher l'heure.
19h, et puis demain, 10h, 18h.
Voilà.
Donc, de quoi faire de belles rencontres. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les
pour
styles.
Pour tout le monde.
Tous les âges aussi, j'ai envie de dire.
Tout à fait. D'ailleurs, on a les petits prodiges. On a mis l'accent aussi sur la jeunesse. Mmh. Ça nous paraît important.
Merci Jean-Claude Grosard.
Merci beaucoup.
Et bon salon.
Merci bien.
On va faire une petite pause musicale ensemble avant de se retrouver pour continuer à accueillir les actrices et les acteurs de la Vague des Livres. Restez à l'écoute sur Calade.
Calade. 100.9.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir. Engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux.
Nous sommes toujours en direct depuis la Vague des Livres à la salle des Échevins. C'est le salon de livres de Villefranche qui a commencé hier soir et qui continue jusqu'à demain toute la journée. Et on va vous proposer maintenant une petite déambulation dans le salon à la rencontre des auteurs du salon. Et on fait une première halte auprès de Julia Richard. Bonjour.
Bonjour.
Vous présentez aujourd'hui votre nouveau roman.
Paternoster aux éditions de L'Homme sans nom.
Paternoster aux éditions de L'Homme sans nom, avec une couverture un peu énigmatique, une femme qui aurait presque deux visages.
Tout à fait, c'est une illustration qui a été faite par François-Xavier Pavillon.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de votre livre ?
Tout à fait. On suit Dana, qui est une jeune femme d'origine modeste, kabyle, famille monoparentale, qui rencontre le beau Basile Paternoster. Il est grand, il est intelligent, il est éloquent, il a tout pour plaire. Et elle fait l'erreur qu'on fait toutes de tomber amoureuse. Et quand vient la rencontre avec la belle famille dans cette grande propriété au fin fond de la Dombe, quelque chose cloche et on ne sait pas quoi. C'est donc un roman entre thriller psychologique, drame, fantastique, contemporain et surtout féministe.
Mais alors, toutes les femmes font l'erreur de tomber amoureuses, vous pensez ?
Toutes à un moment de notre vie ou l'autre, oui.
Qu'est-ce qui vous a... Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui vient, mais je vais le dire comme il me vient. Qu'est-ce qui vous a bousculé dans l'écriture ? Tout d'un coup, qu'est-ce qui vous a projeté dans l'écriture, Julia Richard ?
Eh bien, peut-être parce que j'avais une belle famille dans la Dombe, de bonne famille. Non, parce que effectivement, quand on est une femme et qu'on veut plaire à sa belle famille, on est prête à faire beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup d'injonctions qui pèsent sur nous pour rentrer dans un certain moule, quitte à s'oublier. Et c'était une problématique qui m'intéressait, de me dire que si je transpose ça plus loin, avec une espèce de menace qui couve, sans vraiment savoir quelle est laquelle, à quel moment on se dit que quelque chose cloche et qu'il faut fuir, ou on se dit, après tout, j'ai pas de raison de m'en aller, mes beaux-parents, je vais devoir me les supporter pendant les 40 ans à venir, donc finalement, je fais pas de vague, ou je décide de m'affirmer. C'est vraiment cette problématique-là qui m'a portée sur ce récit.
Donc quelque part, c'est résoudre des problèmes que l'on peut avoir dans l'écriture à travers une fiction, une histoire. C'est presque un coup d'essai pour voir si ça vaut le coup de le faire, en quelque sorte.
Oui, je pense que tous les auteurs et les autrices se projettent dans leur personnage ou dans leur problématique de récit. Et effectivement, ça permet de poser sur le papier pas mal de choses qui interpelleront les lecteurs et qui permettent de transposer le réel, en fait.
Paternoster, c'est votre troisième roman. Comment avez-vous commencé votre parcours d'écrivaine ?
Eh bien, un peu comme tout le monde, je pense, puisqu'il y a énormément de Français écrivent. Je ne saurais plus vous donner la statistique exacte, mais un jour, je me suis mise à avoir envie d'écrire. J'ai commencé par du thriller, je suis passée sur de l'anticipation sociale, puis là, sur du thriller, drame, fantastique, on va dire. Et prochainement, je suis sur du young adult. Donc, en fait, on s'essaye à l'écriture avec un projet, une idée qui vient. Et on tire les fils, on détricote jusqu'à soi-même retricoter quelque chose derrière.
Beaucoup de gens écrivent. Tout le monde ne propose pas... un ouvrage à des éditeurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche et à passer ce pas ?
L'envie, en fait. Je pense que beaucoup de gens écrivent et rêvent d'envoyer ça à des éditeurs. Certains n'osent pas par peur du rejet. Ça fait partie du métier de se prendre quelques portes. Et moi, j'avais envie de pouvoir proposer ça au lecteur et créer un échange. En fait, un livre, à partir du moment où il sort, il ne nous appartient plus. Il appartient à la communauté de lecteurs et lectrices. Et c'est ça qui est chouette aussi, de pouvoir voir le livre vivre et évoluer à travers le regard des lecteurs et des lectrices.
Votre prochain ouvrage, on a déjà une idée de sa date de sortie ?
Pas encore, il est en cours de correction, mais pour le moment rien n'est encore signé, donc je ne m'avance pas là-dessus.
Merci Julia Richard. Donc je rappelle que l'ouvrage que vous présentez aujourd'hui à l'Avec des Livres, c'est Paternoster.
Merci.
Nous, on va continuer notre déambulation à la Vague des Livres et je vais vous proposer, eh bien, que pendant qu'on se déplace, là, on va vous faire profiter d'une petite musique. Et je tiens à remercier, j'en profite, Patrick Trouillou qui permet la réalisation de cette déambulation pendant les rendez-vous avec les auteurs et les autrices. Et on avait prévu d'aller voir Bernard Grandjean et qui est justement en train de parler de ses livres. Alors on va aller voir Monsieur Bernard Grandjean. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Un jeune auteur ou pas ? Non ? Comment on vous présente ?
Excusez-moi, mais vu mon âge, il faudra, vu le bruit qui m'entoure, il faudra que vous demandiez la question à nouveau.
Alors, je souhaitais savoir, je disais, est-ce que je vous présente en tant que jeune auteur qui publie depuis seulement quelques années ou quelqu'un qui a une expérience déjà d'écriture ?
J'ai une expérience d'écriture dans le théâtre et pour ceci, c'est jeune auteur puisque le premier polar édité par Héraclite est sorti en 22 et puis 23 et puis 24.
Donc là, vous avez une trilogie, trois polars que vous proposez. J'ai l'impression que pour vous, c'était presque un amusement d'aller sur ce terrain-là.
Oui, c'est pour le plaisir, hein, pour mon plaisir, et puis pour celui du lecteur, si possible. J'écris pour divertir, pour faire oublier que le monde est un peu triste. Pour mon plaisir, réellement, oui.
Alors, vous proposez là ces trois livres, Le Gone et la Nonne, Au Gai Canu, et puis le dernier, Les Mousquetaires de la Croix-Rousse. Alors, on a compris, hein, avec ces titres-là, Au Gai Canu, Le Gone et la Nonne, ça se passe sur Lyon, vos intrigues.
Oui, les trois sont sur Lyon, mais il y a toujours beaucoup de Beaujolais liquide à l'intérieur. Le troisième, là, commence d'ailleurs à l'occasion du Beaujolais Nouveau à Clochemerle, à Vaux-en-Beaujolais.
Et on retrouve dans cette trilogie des personnages récurrents, même des personnages centraux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la famille qui est née dans votre imagination et tous ces personnages qui sont nés dans votre imagination ?
Alors, c'est un duo très improbable entre le commissaire Raoul Bavard avec un T, comme Torgnol ou comme dans Passage à Tabac ou Tartignol, ça dépend des jours, et, ou comme Tournée de Beaujolais, par exemple. Bon, et le jésuite, c'est un jésuite qui est envoyé par le Vatican, mais comme éminence grise, on ne sait pas trop. Enfin, il a tous les droits, il a renoncé à ses vœux, et il intervient dans toutes les histoires où l'Église est concernée d'une façon ou d'une autre, de toute façon, pour éviter les complications, pour éliminer les problèmes qui seraient gênants, etc. Autant dire que l'un comme l'autre sont vraiment des gens un peu indépendants.
Quand vous êtes à votre table d'écriture, est-ce que vous rigolez un peu tout seul parfois de ce que vous écrivez ?
En écrivant, je ne sais pas, mais il m'est arrivé de relire des bouquins récemment, là, et je suis désolé de rire à mes propres bêtises, mais j'ai ri.
C'est un bon début quand on fait des bêtises, de rire à ses propres bêtises. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot quand même sur les intrigues, sur un peu l'histoire au-delà des personnages que racontent vos livres au sein de cette trilogie ?
Alors au-delà de ce duo, il y a aussi une brave dame lyonnaise avec son franc-parler lyonnais. Il y a de la gastronomie lyonnaise. Il y a une petite fille qui croit que le jésuite c'est son parrain, mais bon, c'est probablement son papa, mais elle ne le sait pas encore. Bon, c'est une petite fille très 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 délurée, hein, très délurée. Et il y a la ville de Lyon, bien sûr. Il y a, si je prends le premier, c'est plutôt la rencontre des personnages, c'est plutôt une histoire qui va permettre de créer le duo de personnages. C'est Le Gone et la Nonne. La Nonne est une jeune fille qui était placée dans un monastère, mais contre son gré, qui s'est échappée, il faut la retrouver. Le Gai Canu, ça se passe dans un EHPAD lyonnais, mais un EHPAD de classe, vraiment pour la haute société, mais elles sont complètement déjantées dans ce truc-là. Et les meurtres en série, mais toujours les meurtres pour rire. Il y en a même qui meurent de rire, je ne devrais pas le dire. Donc, et puis le troisième, les Mousquetaires de la Croix-Rousse. Le nœud de l'intrigue est à la Croix-Rousse, mais le début est en Beaujolais. Il y a d'autres chapitres dans le Beaujolais. Il y a un accident de voiture du côté de Vaux. Il y a le vin nouveau à Clochemerle, etc. Mais ce sont les mêmes personnages.
Quels sont vos prochains projets, Bernard Grandjean ?
Le prochain, qui a commencé, mais qui n'est que commencé, ça se passera entièrement à Clochemerle. Ça serait, on peut dire en deux mots, le titre, ça serait Clap tragique à Clochemerle, et ça serait au cours d'un tournage à Clochemerle, voilà, avec toujours avec les mêmes personnages et beaucoup de Beaujolais. Village ici.
Merci Bernard Grandjean, je vous souhaite un très bon salon en tout cas.
Je vous remercie beaucoup, ouais, tout le monde aussi.
On va faire une petite pause musicale maintenant avant de continuer notre déambulation au sein du salon du livre La Vague des Livres. Et bien écoutez, on va s'en remettre à Mathieu Rouard qui réalise cette émission. On se retrouve dans quelques minutes sur Calade.
سيدة مولي السبا
Ma radio.
Toujours en direct sur Calade depuis la vague des livres, le salon de livres de Villefranche, et on a fait une halte auprès d'un ami de Radio Calade. D'abord parce qu'il a déjà parlé de Radio Calade dans ses livres, dans ses bandes dessinées. C'est Éric Martin. Bonjour Éric.
Bonjour.
Alors Éric Martin, vous le connaissez peut-être de nom, ça c'est tout à fait possible. Vous connaissez sans doute ses affiches et ses cartes avec ce style inimitable. On commence à avoir une belle collection d'ailleurs, Éric.
Oui, la collection s'étoffe d'année en année. Là, j'ai des nouvelles commandes qui vont arriver, notamment Vie et Morgon. Il y a des pourparlers sur d'autres communes du Beaujolais. La collection s'étoffe.
Et puis aussi un projet qui est assez sympa, ça s'appelle Les Routes du Beaujolais. Ça ressemble un peu à un vieux journal, on pourrait dire comme ça. C'est un journal en bande dessinée sur l'histoire locale du Beaujolais.
Voilà, donc c'est une bande dessinée qui se déroule en 12 pages. C'est sur les modèles des rues de Lyon, qui existent déjà depuis beaucoup d'années. Donc on a repris le concept on a monté une maison d'édition qui s'appelle les éditions du troisième jeudi. Et donc les routes du Beaujolais sont là pour mettre en avant notre patrimoine, notre riche patrimoine. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Le numéro 2 est sorti en octobre sur un personnage bien connu du Beaujolais qui est Jules Chauvet, donc le pionnier de la dégustation et des vins nature.
Et le numéro 1, c'était aussi sur un autre illustre homme du Beaujolais, Victor Vermorel.
Tout à fait, qui est cher à notre calade, Victor Vermorel. On a commencé avec celui-ci, un vrai projet, soutenu au départ par la médiathèque de Villefranche, qui a permis en fait de lancer, et l'Institut Vermorel aussi, qui a permis de lancer en fait la collection. Actuellement, on travaille sur le numéro 3, qui est en fait une commande de l'association du cru Moulin Avran. Donc Dominique Fusina, bien connu aussi en tant que photographe, mais aussi de bande dessinée.
De plus en plus.
De plus en plus, voilà. Donc travaille actuellement et il sortira dans une dizaine de jours. Il sera tout chaud, sorti des presses de l'imprimerie au gagneur.
Donc bientôt le numéro 3.
Bientôt le numéro 3.
Et quant à vous, Éric Martin, alors les projets, où on en est? Est-ce qu'il y a une bande dessinée? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui se prépare?
Oui, alors il y a toujours la série des Frères Bompiers qui va se dérouler le numéro 4 pendant la fête des Sarmentelles à Beaujeu. Beaujeu d'ailleurs où j'ai ouvert ma galerie d'exposition où je travaille. Donc c'est aussi une autre façon de mettre en avant le Beaujolais, et là plutôt en 48 voire 52 pages.
Les Frères Bompiers qui vont toujours de bon pied avec toujours des aventures à 200 à l'heure.
Toujours. Donc on les fait encore. C'est David Besnay qui est toujours à l'origine du scénario. Et donc il va encore se passer de belles aventures avec eux.
Et justement, alors cette galerie, on peut la retrouver où exactement à Beaujeu, Éric Martin?
Alors vous pouvez la retrouver au 36 passage des Ursulines à Beaujeu. Je ne suis pas toujours ouvert, par contre je suis présent, donc n'hésitez pas à sonner et à venir discuter et puis voir un petit peu. Des expositions aussi d'autres artistes que j'accueille un petit peu régulièrement pour faire découvrir aussi leur travail.
Eh bien, merci beaucoup Éric, on vous souhaite un bon salon et puis à bientôt.
Eh bien, à bientôt et merci beaucoup.
Vous êtes toujours en direct sur le Calade, nous on va continuer notre déambulation dans les allées du salon. Et cette fois-ci, on va aller voir plutôt le monde des livres des enfants, puisqu'on va aller à la rencontre d'une maison d'édition à destination des enfants, de deux maisons d'édition en fait, plus particulièrement, à destination des enfants. Alors, il y a du monde dans le salon, hein, c'est dur de passer.
Thank you.
on va attendre sagement notre tour parce que forcément, qui dit salon du livre dit que les autrices, les auteurs, sont aussi là pour répondre aux visiteuses et aux visiteurs.
Et Benoît, je suis toujours à notre studio et ça s'agite de notre côté, le studio qui est installé à l'entrée du salon des livres, de la vague des livres. Et ça s'agite ici parce que visiblement la conférence de l'invité du jour, Raphaël Enthoven, vient de se terminer. Il a rejoint son stand et il se lance dans une séance de dédicace, j'ai l'impression. Il va avoir mal au poignet à la fin de la journée parce que ça s'attroupe devant le stand de signature. Voilà, donc il y a du monde, ça s'agite à la vague des livres. Si vous nous entendez en ce moment sur Caladma Radio, n'hésitez pas à venir faire un tour à la vague des livres à Villefranche, à la salle des échevins. Rencontrer effectivement les célébrités invitées, mais aussi et surtout les auteurs locaux qui sont venus en nombre présenter leurs livres et leurs ouvrages. Benoît, je te rends l'antenne.
Mathieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire une petite pause musicale parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de monde là, tout d'un coup, ici à la vague des livres, et pour nous, c'est très difficile d'avancer jusqu'à notre prochaine invitée. Alors, une petite pause musicale pour nous laisser le temps de nous faufiler.
Eh bien, avec plaisir. On écoute Johnny Montreuil avec le titre « Vers les îles ».
Sur l'eau, je veux quitter la terre sur ton joli bateau. Tous les deux vers les îles, loin de mon cœur gelé. Vers une vie tranquille, emmène-moi ma beauté.
Où vas-tu, petit frère, loin de tes caniveaux? Souvent c'est l'enfer de vivre sur les flots. Tous les deux vers les îles, tu ne sais même pas nager. Au pauvre rat des vies, et tu veux naviguer.
Emmène-moi dans le vent, renifler les maquereaux et les poissons d'argent, le soleil sur ta peau. Emmène-moi loin des villes, comme ces goélands. Pour toi, je quitterai belle ville, j'oublierai mes nids de montant.
Ne fais donc pas l'enfant, retourne à tes moineaux, ton Aristide bruant, tes pigeons, tes corbeaux. Tu n'es plus très crédible, je crois tu perds ton temps. Tu dis ça à toutes les filles, et je ne veux pas d'amant.
Prends-moi au bout du monde, passager clandestin. Emmène-moi jolie blonde, je serai ton marin.
Va donc au bout du monde, voici c'est ton destin. Je ne serai pas ta blonde, je suis avec un marin.
Rassure-toi jolie fille, ni jaloux ni corneaux. Laisse voguer notre idylle sur ton joli bateau.
Tous les deux vers les îles, sur mon joli bateau. Réveille-toi imbécile et va prendre ton métro.
Nous trouverons asile sur tous les océans. Sera facile, mais nous prendrons le temps. Nous danserons dans les vagues, sous la lune tous les deux, et dans le chant des âmes. Je t'embrasserai si tu veux. Nous trouverons asile sur tous les océans. Pour toi, je quitterai belle vie. J'oublierai mes nids montants. Nous danserons dans les vagues, sous la lune. Tous les deux, et dans le champ des âmes,
si tu veux.
Et dans le champ des algues,
tu oublieras ta banlieue.
Nous trouverons asile sur tous les océans. La vie sera facile quand nous prendrons le temps.
Rad.
Ma radio.
Nous sommes toujours en direct de la Vague des Livres, à la salle des Échevins. C'est le salon littéraire de Villefranche qui se tient en grande partie aujourd'hui et demain à la salle des Échevins et à beaucoup d'autres endroits. Alors, il y a un salon dans le salon, en quelque sorte. Il y a le salon des grands pour la plupart, même si on retrouve des maisons d'édition pour enfants, des livres pour enfants. Mais il y a quand même la Petite Vague, qui est un lieu dédié spécifiquement aux jeunes, aux enfants. Un lieu un peu à part, mais en même temps, dans le prolongement du salon, peut-être un petit peu plus au calme, j'ai l'impression, parce que là, de tout d'un coup, il y a une agitation ici, dans la salle des Échevins. Tout à l'heure, quand on a commencé, c'était assez calme. Mais alors, depuis que la conférence est terminée, là, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Et donc, on accueille avec nous, sur notre plateau, Marie Gimbert, qui intervient, elle, dans cette Petite Vague. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Alors, je devais dire Mary, quand même, pour plus sonner avec le bel accent chantant que vous nous proposez.
Comme vous voulez.
Alors, cette Petite Vague, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est le projet et comment ça fonctionne ?
Alors, cette année, nous avons voulu, avec Philippe Borel, moi-même et d'autres membres de l'association, de créer un espace dédié aux jeunes. Donc, nous avons proposé des tables avec des livres, une table avec des contes, un autre avec d'autres livres, un petit endroit pour les plus petits, pour qu'ils se posent. Deux tables avec des coloriages, faire des dessins avec des feutres, des tampons, etc. Et aujourd'hui, samedi, il y a les jeunes prodiges qui proposent un atelier d'écriture jeunesse. Et demain, dimanche, la recyclerie Marcel et Madeleine de Saint-Laurent-d'Ouin va proposer des ateliers créatifs. Et là, c'est vraiment chouette. La recyclerie, c'est à Saint-Laurent-d'Ouin. Ça fait peut-être, il me semble, 2 ans que ça existe. C'est une association. Et Isabelle, demain, avec son talent, va proposer des cartes sur les thèmes d'Inde, Afrique et le Japon, il me semble.
Alors, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une inscription préalable qui est nécessaire ou c'est libre entrée pour les enfants qui seraient intéressés par participer à un des ateliers proposés dans la Petite Vague ?
Alors, pour faire les coloriages, lire et tout ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir vous poser comme vous voulez. Et demain, à la recyclerie, c'est en continu toute la journée, donc pas besoin de réservation. Aujourd'hui, les jeunes prodiges ont déjà fait un atelier et il me semble qu'il y a un autre qui commence à 4h30. C'était sur inscription, je pense ça.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Marie Gimbert, d'être venue nous parler de cette Petite Vague. Alors, pour les personnes qui connaissent la salle des Échevins, c'est dans la continuité de la salle des Échevins.
C'est dans la chapelle.
C'est dans la chapelle, voilà. Donc, c'est à la fois vitré, donc on voit ce qui s'y passe, mais en même temps, c'est aussi un peu au calme et protégé pour les enfants. S'il y a un peu trop d'agitation, trop de monde, ça peut être intéressant pour eux de se poser, ne serait-ce que pour le plaisir de prendre un livre entre les mains et de feuilleter un livre ou de faire un dessin. Un plaisir simple d'enfant, finalement.
Voilà, c'est ça. Bah, merci beaucoup à vous pour votre accueil. Merci.
On vous souhaite une très bonne journée, un bon salon. Quant à nous, on fait une petite pause musicale. Avant d'arriver sur la fin de l'émission, on va voir si on arrive à trouver un nouvel invité. Et restez à l'écoute de Calade.
si c'est dans le mauvais corps. J'imagine un tuteur à tort. Si le vent veut te transformer en fleur, my girl. Maintenant je te vois, my girl. Je te connais déjà, my girl. Je danserai.
Ma radio, différente, curieuse et indépendante.
Vous êtes toujours en direct sur Calade et en direct du Salon du Livre, la Vague des Livres, depuis la Salle des Échevins à Villefranche. Et on accueille notre dernier invité pour cette émission en direct depuis la Vague des Livres. Il s'agit d'Alexandre Portier. Bonjour.
Bonjour.
La plupart du temps, quand vous vous exprimez dans les médias, radio, presse écrite, c'est en tant que député. Et aujourd'hui, une autre expérience, vous avez été presque dans le même rôle que nous, le rôle d'intervieweur, en tout cas de questionneur, puisque c'est vous qui avez animé la rencontre avec Raphaël Antoven autour de son livre « L'esprit artificiel ». Et moi, je trouvais ça amusant, ce changement de position, et je voulais comme ça, un peu à chaud, vous demander, après avoir fait cette expérience, comment vous en sortiez, est-ce que ça a été un amusement pour vous? Est-ce que vous avez retrouvé un peu de trac? Je ne sais pas, dites-nous.
De trac, non, de plaisir. D'abord, c'était un vrai plaisir de pouvoir accueillir Raphaël Antoven, qui est quelqu'un voilà, que j'estime et que je respecte. Dans le débat public, quand on est écrivain, quand on est élu, on peut avoir des avis différents, mais je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet échange. Je n'étais pas là dans l'idée d'un débat contradictoire. Je n'étais pas là pour l'embêter, j'étais pas là pour le contredire, c'était pas le pour et le contre d'un côté. J'étais là pour lui permettre d'exprimer son propos, poser des questions, essayer de le challenger un petit peu, de montrer les limites des thèses, de soumettre des avis contraires, voilà, lui permettre de nous expliquer ce qu'était sa vision de l'intelligence artificielle et des bouleversements que demain elle pouvait produire sur notre société. C'est vrai que c'est amusant comme exercice quand on est député, souvent on répond aux questions quand on est élu. Et là, de pouvoir poser des questions, je ne dirais pas que c'est reposant, mais ça permet d'avoir un autre angle de vue. Et je trouve qu'intellectuellement, ça fait du bien parce que finalement, c'est aussi en miroir ce qui nous manque beaucoup dans la société actuelle. On est dans une société du clash où on clive beaucoup, on a du mal à laisser l'autre parler. Et là, l'idée, c'était de pouvoir lui permettre de s'exprimer et d'entendre des avis différents dans cette salle. C'était extrêmement intéressant.
Et puis, pour celles et ceux qui le savent pas, mais en tout cas pour vous, la philosophie, c'est pas quelque chose qui est inconnu. ça a été même avant que vous preniez votre mandat de député, ça a été votre métier en tant qu'enseignant.
Ça a été mon métier effectivement. Ça a été aussi pour moi un choix même d'études, puisque avant de faire Sciences Po, avant d'être élu local à Villefranche, ma première formation, c'est celle de philosophe, entre guillemets, d'étudiant en philosophie, que j'ai découvert évidemment au lycée comme beaucoup, ensuite en Hippocagne, après à l'école normale supérieure. J'ai fait des études en philo avec tout ce que ça implique de richesse, d'ouverture, de découverte, de lecture. Et c'est pour moi aussi un petit peu de nostalgie, parce que je l'ai dit au tout début de la rencontre avec Raphaël Enthoven, mais pour moi, le rencontrer, l'accueillir ici à Villefranche, c'était finalement une Madeleine de Proust. Quand je dis ça, c'est que je me souviens encore très bien de sa voix les samedis soirs d'hiver, quand j'étais en Hippocagne à bûcher sur mes cours de philo, et que je l'entendais nous expliquer différentes théories philosophiques dans l'émission qui s'appelait à l'époque Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et donc c'était à la fois un débat intellectuel, mais aussi un petit plaisir pour moi nostalgique.
Quand on est député, on rencontre beaucoup de monde, on s'intéresse à beaucoup de sujets, et quand on a fait un chemin dans la philosophie, alors je ne sais pas pour vous si la philosophie est aussi presque un chemin spirituel, en tout cas quelque chose qu'on doit incarner dans sa vie quand on se sent proche d'un courant. La question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui vos livres sur lesquels parfois vous pouvez vous appuyer, mais presque, j'allais dire, physiquement, quoi, quand vous avez besoin de retrouver le sens, ou vous avez besoin de retrouver un peu le nord, le sud, le haut et le bas, quels sont les ouvrages, les livres qui vous manqueraient s'ils ne vous accompagnaient pas presque au quotidien ?
Il y en a beaucoup. J'ai toujours un livre de philo qui traîne quelque part à la maison. Il y en a à peu près dans toutes les pièces, et ma femme me le rappelle tous les jours. En fait, la philo, je pense qu'il faut sortir de l'idée que ce soit un dogme. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine qu'on assène. Peut-être que certaines personnes y trouvent un confort à avoir un manuel de prêt-à-penser. Je pense que la philosophie, si elle peut laisser quelque chose à la fois à celui qui l'a éprouvé en lycée, à celui qui l'a connu comme enseignant, c'est d'abord cette exigence intellectuelle, celle de ne pas tout prendre pour argent comptant, et d'essayer de toujours en revenir à l'étonnement, essayer de comprendre les choses, essayer de prendre un pas de côté, un peu de recul sur les sujets qui se présentent face à nous. Et ça, il y a plein de livres en philosophie qui nous permettent de revenir à ça. L'un des auteurs dont j'étais féru quand j'étais étudiant, c'était Nietzsche. Pourquoi ? Parce qu'il avait une forme d'ironie mordante sur le monde qui permet de toujours ramener les choses à ce qu'elles sont, à leur modestie. Ça permet... Il avait un très, très grand goût littéraire, une très grande culture. Il savait toujours trouver les bons mots pour montrer l'ironie des choses et quelque part nous faire prendre le recul nécessaire sur les situations auxquelles on peut être confronté les uns les autres au quotidien. Après, il y a des philosophes qui nous ont marqué. Il y en a un qui me manquerait sans doute, c'est Descartes. Le premier philosophe qu'on rencontre tous en terminale, c'est Descartes. Et à un moment donné, il y a toujours une forme d'optimisme chez Descartes. L'idée qu'en étant patient, en étant sérieux, en étant rigoureux, on peut arriver à progresser dans la vie. Je suis quelqu'un qui croit à l'idée de progrès. Et je pense que des gens comme Descartes manqueraient à la philosophie s'ils n'existaient pas. Il y a des fondamentaux qu'on n'a jamais fini d'ouvrir ou de réouvrir. Je pense en particulier à Platon, à Aristote. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'ouvrir la saison de l'Académie par une conférence sur Blaise Pascal, à l'occasion des 400 ans de Blaise Pascal. Je l'ouvre à 33 ans, non, 32 ans, pardon, je l'ouvre à 32 ans, et j'ai plus le même regard que quand je l'ai ouvert la première fois à 16 ans, en fait. Et c'est des textes qui gardent une vitalité, un dynamisme, une fraîcheur, année après année et siècle après siècle, et c'est ça qui est absolument fascinant. Et de tels monuments nous manqueraient s'ils devaient demain disparaître.
Et pour terminer, parce qu'on est dans un salon du livre, parce qu'il y a des livres, votre lecture du moment, si, alors parfois une lecture ça peut être très intime, alors vous avez le droit de nous dire non, j'ai pas envie de partager ma lecture du moment, parce que il y a même des gens qui achètent des caches couvertures pour lire tranquille, pour pas qu'on sache qu'ils sont en train de lire, donc je voudrais pas me montrer indélicat, mais si vous voulez bien partager avec nous.
Alors j'ai un défaut, enfin à la fois une qualité et un défaut peut-être, il faut commencer par la qualité si c'en est une, c'est que j'essaye de lire beaucoup, parce que je pense qu'intellectuellement c'est une nourriture qui fait du bien, y compris quand on est parfois absorbé par la vie publique. Donc j'ai tendance, du coup c'est le défaut, à ouvrir plusieurs livres en même temps. Et ma femme me dit toujours, je ne comprends pas comment tu fais, mais je dis, mais moi, c'est qu'il y a différents moments dans la journée et les différents livres me permettent finalement de répondre à différentes humeurs, à différents besoins. Et lire un livre de philosophie allemande compliqué à 23 heures, bah, c'est parfois un peu plus aride, donc j'ai une petite prédilection pour des choses un peu plus légères.
Il y a des choses qu'on peut lire et que l'on peut comprendre que quand il est très tard et qu'on commence à être un peu fatigué.
Oui, peut-être même que certaines choses sont plus faciles à comprendre avec un verre de vin. Enfin, ça dépend un peu des uns et des autres. J'ai plusieurs lectures. J'ai des livres historiques sur mon bureau, notamment sur l'histoire du Beaujolais. Et je viens tout juste de refinir, parce que c'était une relecture en réalité, le magnifique ouvrage de Jean-Jacques Pignard sur les conscrits de Villefranche. Voilà, de Villefranche en Beaujolais. Et là, sur ma table de chevet, j'avais hier soir, pour tout vous dire, Victor Hugo, un énorme pavé qui s'appelle « Chose vue ». Parce que Victor Hugo, à partir de 1830, avait pris l'habitude de noter tout un tas de choses de l'époque, à la fois quand il était député, quand il était écrivain. Et je trouve que c'est une mine d'enseignement sur l'histoire passée. Mais aussi, ça m'amuse toujours quand je suis moi-même dans l'hémicycle, de pouvoir comparer ce qui s'est passé à ce que je vois aujourd'hui.
Merci Alexandre Portier. Et puis pour remercier mes camarades du jour pour la réalisation de cette émission, j'ai envie aussi de vous donner la parole et de vous demander... quel est le livre sur votre table de chevet? Alors, je vais commencer avec Patrick Trouillot qui a aidé à la production de cette émission et à la facilitation. Ah, on va lui ouvrir son micro.
Mathieu ne voulait pas que je m'exprime. Sur ma table de chevet, il y a un livre d'un sociologue lyonnais qui s'appelle Bernard Lahire. Et ce livre, c'est son dernier livre, Les structures fondamentales des sociétés, je crois, quelque chose comme ça. C'est un livre important et j'en suis qu'au début. C'est passionnant.
Et toi, Mathieu, alors, Mathieu Roir, à la réalisation de l'émission?
Moi, je lis un livre qui s'appelle Le sang de la cité. Je me rappelais qu'il y avait le sang dans le nom, mais je m'en souvenais plus et je suis allé le choper dans ma trousse d'ordinateur. C'est pour ça que j'ai oublié d'ouvrir le micro de Patrick.
Ils font les gros yeux parce que je ne les avais pas du tout prévenus, donc c'est à brûle pour point comme ça. En tout cas, merci à eux d'avoir aidé et d'avoir réalisé cette émission. On vous souhaite
merci à toi, Benoît.
Un bon salon du livre et on vous donne rendez-vous très vite en direct sur Calade. Restez à l'écoute de nos programmes.
À plus.
Calade 100.9.